Déjà là, excellent. C'est quoi le plus grand danger pour notre zèle en tant que chrétien? C'est quoi le plus grand ennemi du zèle dans notre service pour le Seigneur, notre travail pour lui? Cette semaine, tu allais répondre, désolé Doris. Tu allais répondre? Là, je t'ai interrompu. J'ai écouté cette semaine John Piper. Et j'ai bien aimé sa réponse. Ça m'a vraiment... en tout cas, ça m'a dérangé un peu, en fait. Lui, sa réponse, c'est le temps. Le temps. Il a dit, les enfants se tannent de le jouer. On le donne plein de jouets la journée de Noël, 2 jours plus tard. Il cherche quelque chose à faire. Il dit, les vacanciers se tannent de leur temps libre. Moi, comme professeur, je peux comprendre, hein, après 2 mois l'été, hein, à un moment donné, on se tanne d'avoir rien à faire. Puis on a quasiment hâte de retourner au travail pour qu'on puisse chialer qu'on a trop de travail puis on a hâte pour les vacances. C'est un peu ça. On se tanne. Il dit, les millionnaires se tannent de leur argent. J'allais faire un commentaire comme si c'était pas vrai, mais c'est vrai. Et les chrétiens se tannent de faire du bien. Je vais reculer sur mon... On commence une cellule de prière. On est-tu content d'avoir des rencontres avec des chrétiens, avec des gens, de partager la parole, partager nos requêtes, de prier. Pendant les premières quelques semaines, ça va très bien. Après un bout de temps, c'est plus dur, là, c'est... convient plus ou moins à soir, fait pas mon affaire, et là, on finit par titaner. On commence une étude, on achète un livre et on commence à lire. Et les premiers chapitres sont très intéressants, mais rendus au 4e, ils commencent à se radoter, puis on finit avant le milieu. Je parle de moi en tout cas. On veut prier, on commence le matin, on se met l'alarme bientôt le matin pour se lever. Et on se lève le premier matin, puis le deuxième, puis le troisième. Mais là, samedi arrive, puis on met ça un peu plus tard. Puis lundi, on a oublié de mettre l'alarme. Et finalement, ben, c'est trop dur. Je pense que je vais prier dans mon auto en allant au travail. Vous voyez un peu? Je pense que c'est l'expérience qu'on peut avoir plusieurs. On se lasse de faire du bien. Moi, je peux même dire, ce matin, j'ai raté une occasion de faire le bien. Parce que j'étais lasse. J'étais un peu... C'est certaines choses qu'on fait, puis on fait, puis on fait, puis à un moment donné, pas encore. Mais on se lance de faire le bien. Cependant, un des textes de notre passage de ce soir nous dit, ne nous lançons pas de faire le bien. Et je trouve ça intéressant que Paul n'arrête pas l'exhortation de dire ne nous lançons pas, mais il donne une raison, il explique pourquoi. Il dit, car nous moissonnerons autant convenable si... nous ne relâchons pas. Nous ne lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. Voyons ensemble le texte au complet. Si vous voulez aller dans vos Bibles, vous pouvez. C'est Galates chapitre 6, versets 6 jusqu'à 10. Galates 6 jusqu'à 10, on fait suite aux fruits de l'esprit et aux œuvres de la chair. On fait suite à porter les fardeaux les uns des autres. Et on arrive ici en Galates 6, 6 à 10. On va lire. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Il va avoir une collecte à la fin de la réunion. Je me suis dit que je ne le dirais pas, mais il fallait bien que je le dise. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Nous ne lassons pas de faire le bien quand nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères dans la foi. Le message ce soir, on va avoir 5 étapes, quelques-uns qui sont plus courts, quelques-uns qui sont plus longs. On va voir le principe général de semer, de moissonner. Après, je vais avoir juste quelques réflexions là-dessus pour sortir tirer d'un des versets de notre texte, juste pour mettre un peu de chair autour de l'os là. Après ça, on va parler de chair versus l'esprit, parce qu'on voit s'aimer pour la chair ou s'aimer pour l'esprit. Donc, on va parler un petit peu de qu'est-ce qu'on a vu en Galates là-dedans et comment qu'on peut comprendre ça. Ensuite, quelques applications et une courte exhortation. Je vais vous exhorter ce soir. Donc, vous êtes prêts? On y va. Principe général, on a déjà vu. On récolte ce qu'on sème. Et là, je vous épargne un long speech sur le fermier qui part dans le champ à s'aimer du blé, là, qui s'attend à récolter du maïs. Quoi que je pourrais dire, on a récolté un plant de maïs dans notre cour arrière l'année passée, c'est ça, Annie? On ne sait pas d'où ça a sorti. On ne l'a pas sémé, mais il est sorti, mais que veux-tu? On récolte ce qu'on sème. S'aimer, c'est le début. C'est ce qu'on fait. On part, un fermier part son année en s'aimant. C'est le début de tout. Mais moissonner, on pourrait dire que c'est la fin. C'est là qu'on arrive au bout. Et juste ce petit mot-là, ce qu'on sème, notre français n'est pas aussi précis que le grec, ça a de l'air. Moi, je ne connais rien du grec, mais on me dit. Et que on pourrait peut-être dire on récolte exactement ou la même chose que ce qu'on sème. Et le texte est construit d'une façon à ce qu'il veut rendre ça bien, bien, bien clair qu'il n'y a pas d'autre chose. On n'intervient pas avec des nouvelles affaires. Puis ce qu'on sème, ben, c'est cette même chose qu'on va récolter. Donc, c'est le principe général. J'en parlerai pas bien, bien plus longtemps. On va juste aller quelques réflexions importantes à partir des versets. Puis, premièrement, un des versets, verset 7, nous dit « Ne vous y trompez pas ». Par rapport à ce principe-là, justement, de s'aimer, ne vous y trompez pas. Ben, pourquoi Paul les dirait ça? Ben, une raison, ben, c'est parce que c'est vrai, puis il ne faut pas se tromper sur la vérité. Il faut bien viser, il faut croire ce qui est vrai, puis pas croire ce qui n'est pas vrai. Mais il faut dire aussi que c'est possible qu'on se trompe sur ce sujet-là. Si il est dû, ne trompez-vous pas. C'est parce qu'il y a une possibilité qu'on se trompe à ce sujet-là, justement. Et j'ai lu quelqu'un qui a dit, ben, quand est-ce qu'on peut se tromper là-dessus? Ben, justement, c'est entre le début puis la fin. On sème. En principe, les plants sont semés, les semences sont là. Ça peut commencer à pousser. On sait-tu qu'on va récolter la même chose? Un fermier, oui, il n'y a pas de doute nécessairement là-dessus, mais... nous, on pourrait peut-être y douter. Donc, ne vous y trompez pas. Et là, ça vient à dire c'est une question de foi basée sur ce qu'on connaît de Dieu. Il y a quelques semaines, Doug, je pense que c'est Doug qui a prêché sur le psaume 73. Juste aller le voir avec vous, parce que justement, l'homme qui est là avait un peu de difficulté avec ce concept-là. Le psaume 73, c'est Asaph qui... en tout cas, vous allez voir dans le texte, mais Asaph qui vit, un homme, un chantre au temple, qui vit des moments difficiles, puis des doutes. Puis lui, il dit, « Mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne leur tourmente jusqu'à leur mort, et le corps est chargé d'embonpoint. » Le texte continue et continue avec... tous les outrages que les méchants vont faire et comment, finalement, ils sont heureux. Justement, Asaph, il regarde les semences puis il dit, « Coudonc, ils ne récoltent pas. Hein? » Puis entre s'aimer et récolter, il y a un temps où on peut se tromper. Asaph, par exemple, il continue. Puis regarde un peu plus loin. J'ai entendu ça une fois. Le plus qu'on regarde loin quand on prend nos décisions, le meilleur que la décision va être. Puis lui, il regarde. Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes. Tu les fais tomber et les mets en ruine. Justement, cette loi de semences et de récolte, c'est une question de foi pour nous, des chrétiens. Est-ce qu'il est vrai que Dieu va faire? nous fait récolter ce qu'on sème. Et justement, face à ceux qui pensent qu'ils pourraient s'en échapper, deuxième point, je voudrais mentionner, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce n'est pas ici juste une question de quelqu'un qui se trompe, quelqu'un qui a une mauvaise idée, mauvaise conception, quelqu'un qui fait une gaffe d'humain. Hein. Si on pense pouvoir échapper à cette loi qui dit qu'on récolte ce qu'on sème, on se moque de Dieu. On rit de lui en plein face. Le semeur dit, on traite Dieu avec du mépris si on ne reconnaît pas ce principe-là. Quand on sème, et on pense sème la méchanceté et pense ne pas récolter la méchanceté, on rit de Dieu. Dit, tu n'es pas Dieu, tu ne le ferais pas. Tu ne peux pas contrôler mon futur. Moi, je m'organise. Moi, je vais m'échapper à ça. Je vais faire ce que je veux. Le contraire est aussi vrai, par exemple. C'est qu'on rend gloire à Dieu, nous, quand on le reconnaît. Et c'est une occasion pour nous, dans nos vies, de rendre gloire au Seigneur puis de lui donner la place qui lui revient. Lorsqu'on reconnaît que ce qu'on aura semé, ouais, on va le récolter et que Dieu s'organise avec tout ça. Ce qui nous amène à notre question de chair versus l'esprit. Dans notre texte, il nous parle de ceux qui sèment pour la chair moissonneront de la chair la corruption, et ceux qui sèment pour l'esprit moissonneront de l'esprit la vie éternelle. Et je veux prendre un peu de temps pour regarder ces deux choses-là. C'est quoi la chair? Comment on peut s'aimer pour la chair? C'est quoi l'esprit? Comment on peut s'aimer pour l'esprit? Pour essayer de comprendre en quoi tout ça fonctionne. Donc, on va recommencer par regarder la chair. Difficile, hein, des fois, de définir des mots comme ça dans la Bible. C'est un terme théologique, pas un terme commun. Là. On l'utilise, on mange de la chair des porcs quand on mange du bacon. Là. Je pense pas que c'est de ça que ça parle. Hein? On va regarder. Moi, j'ai été chercher dans mon dictionnaire Emmaüs pour voir c'était quoi la chair. Donc, la chair, selon le dictionnaire Emmaüs, en tout cas, c'est la nature humaine privée de l'Esprit de Dieu. C'est notre nous, naturel, sans que Dieu intervienne. Dominé par les appétits qui asservissent les facultés intellectuelles, les sentiments, la volonté et aussi le corps. Donc, c'est le moi qui nous met en esclave pour qu'on fasse ce qu'il veut et qui nous empêche de l'esprit de bien fonctionner. Il continue, puis il dit, le moi incapable de faire le bien. Ça, c'est le chair, le moi là, qui ne veut pas obéir à la loi de Dieu. Cette chair-là ne peut être ni améliorée. On ne peut pas travailler dessus pour le rendre mieux que ça l'était. On ne peut pas le purifier peu à peu. On ne peut pas l'amener à être une bonne chair. On ne peut être ni amélioré, ni sanctifié. On ne peut pas le rendre saint, cette chair-là. Il faut qu'elle soit subjuguée, tenue en échec, mais en réalité, crucifiée par la soumission à la présence et à la puissance de l'Esprit-Saint. La chair, notre nous, sans que Dieu intervient, incapable de faire le bien, incorrigible. La dernière fois que la chair a été mentionnée en Galates, c'est les œuvres de la chair, en Galates 5, je ne sais pas il y a combien de temps on a discuté de ça, on a parlé des œuvres de la chair, justement, on va aller voir, parce que je suis certain que ça va nous aider à comprendre. Donc, en Galates 5, chapitre 5, verset 19, on dit, « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. » Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimités, les querelles, les jalousies. Pourquoi j'ai pris le lever second? J'aurais dû prendre de quoi de comprenable pour moi, avec mon peu de vocabulaire. Bon, on continue. Les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table. Et, ils n'ont pas le droit de mettre etc. dans la Bible, mais ils l'ont ici un peu, les choses semblables. OK, ça finit pas là. Ce n'est pas une liste exhaustive. C'est à un moment donné, cette année, de se concentrer sur tout ce qui est négatif. Donc, il dit, garde tout le reste là, qui est comme ça. Ça, c'est la chair. Je voudrais mentionner que la chair peut avoir différentes formes, par exemple. Pardonne-moi. Ça va pas bien avec ma bouche aujourd'hui. Il y a la chair, style, crime organisé. On va regarder eux autres. Crime organisé, dissolution, je dirais. Les inimités, les querelles, les divisions, les sectes, l'ivrognerie, des choses comme ça. Ça, style crime organisé. Là, on voit la chair. Là. C'est la méchanceté qui sort. C'est du fin fond du satanique et en destructif, la chair. On le voit, passe sur un Harley dehors, puis on l'entend. OK? C'est la chair style crime organisé. Mais il y a aussi la chair style crime des cols blancs. Et si on si on regarde dans le texte, il y en a. Si on regarde un peu, ben des accès de table, quand même. Oh non, des tout petits, là, des jalousies, me semble, pas grand-chose, là, des petits sectes, des petites disputes. Et il y a dans cette liste-là, il y en a qui ont l'air super graves, que nous, on verrait comme en lutte contre ça, c'est sûr. Hey, regarde. Il y en a d'autres, par exemple, qui sont un petit peu plus col blanc, comme je dis. Je vais vous montrer un autre verset qui parle justement de ça. À Colossiens, chapitre 2, si je ne me trompe pas, que Paul parle, il faut suivre un peu parce que ça arrive à la fin. Il dit, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. C'est des principes que les Colossiens disaient. Il dit, préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont, à la vérité, une apparence de sagesse. Avouez. On retourne, là, c'est des choses que je pourrais dire à mes enfants qui sont ici. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas certaines choses. Regarde, on fait pas. Fais attention. Qu'est-ce que ça pourrait amener? Où est-ce qu'on pourrait aller avec ça? Mais il dit, une apparence de sagesse en ce qu'il indique un culte volontaire, et c'est des choses on s'offre à Dieu. On n'est pas obligé. C'est de l'air sage. De l'humilité. C'est une bonne chose, ça, l'humilité. On n'est pas en train de se mettre au-dessus des autres, en train de se mettre... On s'écrase un peu, se mettant en dessous des autres. Et mépris du corps, je me donne pas à mes passions. Je me limite. Ça a l'air super, super, super correct, ça. C'est une colle blanc, ça. Il arrive propre, puis dans son Lexus dehors. Lexus, c'est Julien. Il faudrait, je trouve, une infinité. Pas personne que ça. Hein. Mais, on va juste continuer. Mais, ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. On le voit, là, la chair qui se lève, pas seulement en cuir sur un Harley avec des cheveux longs à vendre la drogue, mais aussi à paraître bien juste, bien correct devant Dieu. C'est notre dictionnaire Amis qui le dit, le moi sans Dieu, privé de l'Esprit de Dieu. C'est le la chair des religieux. Où est-ce que je m'en vais après ça? Oui, directement à l'esprit. Et la chair, là, qu'on a vu ça, on peut imaginer déjà comment on peut s'aimer pour la chair. Hein? On laisse aller nos passions, on laisse aller notre moi intérieur, on fait ce qu'on a le goût de faire, que ce soit être religieux, que ce soit être col blanc ou crime organisé, et on s'organise. On va parler de l'esprit maintenant, et s'aimer pour l'esprit. Mais s'aimer pour l'esprit... c'est marcher par l'esprit, ce qui devrait produire le fruit de l'esprit. Merci, Benoît. Toi, tu es mon meilleur élève. OK? Marcher par l'esprit. Et c'est intéressant parce que je cherchais, moi, autour d'une heure, une heure et demie hier soir, je cherchais dans mes dictionnaires bibliques, dans mes commentaires bibliques, sur l'Internet, dans mon e-sword, dans tout ce que je pouvais, pour quelqu'un qui me dit, comment qu'on fait ça, marcher par l'esprit? Jusqu'à ce que j'arrive dans un petit livre que Doug m'avait donné quand on a fait Galatien, Galates il y a quelques temps. Galatien. Excusez-moi. Où lui a dit, il n'y a pas d'explication. On ne trouve pas dans la Bible à nulle part quelqu'un qui explique comment qu'on fait pour marcher par l'esprit. On décrit plutôt les résultats que ça donne, le fruit de l'esprit. Mais l'homme, en même temps, il a proposé une série d'attitudes, plutôt de des attitudes qu'on pourrait avoir en trame de fond. On réussit à aller voir ça. Marcher par l'esprit, selon l'esprit, j'ai oublié que je m'en allais. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, l'esprit contre la chair. Là, on arrive à une petite liste que lui avait faite. Okay, ce n'est pas biblique, puis ce n'est pas tiré d'un verset ou d'un passage. Et moi, comment on dit ça? Les opinions exprimées par les gens ne sont pas ceux du prédicateur, etc. Mais lui, il dit, il y a toute une série de choses qu'on pourra voir dans la vie de quelqu'un qui marche par l'esprit. Des attitudes à avoir qui vont amener à ce que le fruit de l'esprit se développe, sans être une méthode. Donc, un cœur pour Dieu, un désir de lui connaître, de l'aimer, de le servir, de l'intimité avec Dieu. Lui, il a parlé de... C'est quelqu'un qui m'envoie... Lui, c'est quelqu'un qui envoie une lettre, là. Tu vois bien mon nom qui est mal écrit, là, parce qu'il ne me connaît pas. Il m'a pris mon nom dans un bottin téléphonique, là, puis il a envoyé ça. Ou il a ramassé ça à quelque part. C'est pas l'intimité, ça. Et nous, on doit connaître Dieu, la personne. Pas juste qu'est-ce qu'il y a de l'air ou l'intimité avec lui. Une faim et une soif pour la sainteté. Une compréhension de l'Évangile, je dirais même comment l'Évangile s'applique dans la vie quotidienne, qu'on ne lâche pas, qu'on ne l'oublie pas, la grâce de Dieu. Une connaissance d'un conflit en dedans de nous, le conflit justement entre la chair puis l'esprit. Quand on le reconnaît qui est là, c'est une attitude qu'on a besoin de l'avoir, une reconnaissance de l'imperfection, la compréhension qu'une vie spirituelle est impossible humainement, un désir pour le service, un sens de la communauté chrétienne, un sens d'anticipation ou d'urgence et une passion pour la parole. Passion pour la parole, parce que c'est à travers la parole qu'on peut connaître Dieu. J'ai le goût, à un moment donné, d'aller au centre-ville, là, j'en ai parlé avec Jean-Luc, puis me mettre sur une petite estrade, puis dire aux gens que je suis agnostique. Parce que sans que Dieu se révèle à nous, on ne peut pas lui connaître. Il y a quelques petites brettes que Romain nous dit qu'on est capable de savoir, mais on ne connaît pas Dieu si lui, il ne se révèle pas à nous. Et s'il s'est révélé à nous, c'est pas... Dans le cerveau qu'il a fait, c'est pas dans le cœur, c'est dans la parole, à travers un livre. Une passion pour la parole, mais c'est quelque chose, une attitude qu'on va avoir qui va nous amener à ce que le fruit de l'esprit pourrait se développer. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité. J'aurais dû prendre une version que je comprenais. La fidélité, la douceur, la tempérance ou le contrôle de soi. Si on a ces attitudes-là qu'on vient de voir, si on laisse le Saint-Esprit nous diriger, nous travailler, contrairement à ce qu'on voudrait, à ce que notre chair nous dit de faire, bien, c'est ça qui va développer en nous, le fruit de l'Esprit. Et là, je ne me rappelle pas où mon PowerPoint s'en va. Pas là encore. Ce qui m'amène à la moisson. On a dit, si on sème pour la chair, on moissonne la corruption, la destruction, les ruines. Si on sème pour l'esprit, on moissonne la vie éternelle. Qualité de vie, pas seulement durée de vie. Alors, j'ai souvent entendu ça, mais Darby, j'ai pris une citation de Darby, il a fallu que je traduise moi-même, donc vous m'excuserez, qui dit, « Le bonheur du sanctifié dans l'éternité ne se relève pas de ce que l'éternité soit sans fin. C'est pas qu'on va se plaire dans l'éternité parce que ça finirait plus. C'est pas ça la vie éternelle qui est un espoir pour nous. C'est plutôt des conditions morales plus nobles de cette nouvelle ère. Le bonheur du sanctifié dans l'éternité relève des conditions morales plus nobles de cette nouvelle ère. Donc, si on sème pour l'esprit, bien, on va moissonner, justement, ces conditions morales plus nobles qui vont nous rendre bien heureux. Et, pardon, je perds mon micro. J'ai voulu mentionner ici une grande crainte que j'ai pour moi-même. C'est qu'on peut devenir très légaliste face à ça. On peut devenir très critiqueux. On peut regarder autour de nous, voir soit des gens du dehors. Des fois, on pourra penser au vrai crime organisé, puis penser, ben j'ai hâte qu'ils moissonnent eux autres. J'ai hâte, là. Ils s'aiment, là. J'ai hâte de les voir moissonner, eux. Ils sont méchants. Les politiciens, là, on a hâte là, que prochaine élection, là, ils vont s'aimer, là, ils vont moissonner. Il faudrait qu'on fasse attention, ne pas prendre cette attitude, justement, de la chair, de vouloir que des gens veulent recevoir, vouloir que des gens reçoivent le moisson de leur salaire. Qu'est-ce que ça va pas bien dans ma tête? Je suis vraiment désolé. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Mais il faut aussi faire attention à l'attitude qui vient de la chair, qui pense que si on a semé nos bons choix, notre dévouement envers Dieu, bien, on mérite de moissonner son approbation. C'est pas comme ça non plus. C'est tout ce qui... C'est le fruit de l'Esprit. C'est lui qui le produit en nous. On a fait que lui laisser faire. On n'a fait que d'empêcher notre chair de le tasser. Mais ce qui m'amène justement à l'Évangile à la rescousse. Jésus, c'est lui le héros. Si on arrête et on y pense. Qu'est-ce qu'on a semé, nous? Qu'est-ce que j'ai semé, moi, jusqu'à 18 ans, quand je suis venu au Seigneur, quand j'ai compris l'Évangile? Qu'est-ce que j'ai semé? Ben, la chair. J'avais pas d'autre chose. Qu'est-ce que j'avais à moissonner? Quelle moisson me reste? Ben, la ruine, la destruction. C'est ça qui me reste. C'est ça que je devrais récolter. Et même, je lisais, pour essayer de me changer les idées, pour pas que je fasse un trou dans le tapis chez nous, là. Je lisais Martin Lloyd-Jones, Doug Lapara parlait de lui ce matin. Il dit, comment qu'un Dieu saint peut pardonner? Comment qu'un Dieu qui dit qu'il va punir le péché, le pardonner? Comment qu'un Dieu qui dit, tu ne te moqueras pas de moi, ce qu'un homme aura semé, il récoltera. Comment qu'un Dieu peut, dans ce cas-là, nous pardonner? Et c'est là que Jésus est l'héros. Puis, c'est l'histoire connue. Il ne faut pas qu'elle s'arrête, par exemple, de s'émerveiller devant ça. C'est Jésus qui a semé l'intimité avec son Père, l'obéissance. C'est Jésus qui a semé des bonnes œuvres. Mais c'est Jésus qui a récolté notre champ à nous. On s'est échangé de champ. J'avais mon champ plein de scrap, plein de mauvaises herbes, plein de pissenlits, plein de... J'allais dire des framboises parce qu'ils ont des grosses piques, mais c'est bon, ça. Je peux vivre avec ça. Mais mon champ plein de chenoutes. Lui, il avait son champ à lui. Tout semé avec du bon blé. Puis quand il est allé sur la croix, on s'est échangé de champ. Et le Dieu juste, ben, il a puni un homme juste pour prendre ma place. Et le Dieu juste, ben, il a fait en sorte que quelqu'un moissonne justement ce que j'avais semé. Et moi, ça m'a permis de récolter moi ce que Jésus a semé. L'intimité avec son Père, la justice et le pardon. En même temps, il y a comme un mais. Et j'ai même écrit dans mon papier, parce que je ne voulais pas oublier de le dire, moi j'aimerais ça ne pas parler de cette section-là. J'aimerais ça l'ignorer, puis laisser faire, puis passer à d'autres choses. Parce que c'est un peu difficile ce que je vais avoir à dire et les liens qu'on va avoir à faire ici. Donc, on a l'Évangile à la rescousse, mais si on regarde bien notre texte, regardez-le bien si vous avez vos Bibles avec vous. J'ai pas ma Bible avec moi. Il faut voir que je... On dit, en Galates 6:8, moissonner la vie éternelle. C'est ce qu'on espère, c'est ce qu'on veut pour nous. Moissonner la vie éternelle. Et si on regarde bien le texte, qui est-ce qui moissonne la vie éternelle? Ben, c'est ceux qui ont semé pour l'Esprit. Il ne parle pas ici directement ou clairement de foi en Dieu, une foi, demander pardon de mes péchés, pour ses péchés. Il dit, celui qui sème pour l'Esprit moissonnera de l'Esprit la vie éternelle. Ça, je vais aller avec John Piper, un grand prédicateur anglais, parce que comme ça, on ne peut pas me lancer de roche. Encore une traduction libre de l'auteur, de moi-même. ton sort final dépend d'une certaine façon de si tu te lasses en faisant le bien ou non, si tu sèmes pour l'esprit ou non. Comment? Toutes sortes de façons qu'on pourrait expliquer ça. Il y en a qui disent qu'on perd de salut. Moi, je ne pense pas qu'il y en a de ça dans la Bible. Je ne pense pas qu'il y ait de moyens de prouver ça. Je ne pense pas que ça va avec les promesses de Dieu. Mais je pense que Dieu veut rendre ça clair, que c'est lui qui croit en lui, que lui qui est régénéré, qui a l'Esprit de Dieu, ben, va s'aimer pour l'Esprit et va récolter la vie éternelle. John Calvin a dit, « Nul homme est chrétien qui ne ressent pas un amour particulier pour la justice. Avec le salut va venir, en quelque sorte, ce désir-là. » Mais en même temps, l'avertissement reste. Celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle, mais celui qui sème pour la chair. Et n'oublie pas, ce n'est pas écrit à des inconvertis, ce n'est pas une prédication que Paul fait dans le livre des Actes, là, à quelque part en Turquie. Là. Il est en train d'écrire à une église, à des églises. Il faut qu'on porte attention à ce message-là, parce que c'est important. Et là, après avoir dit ce que j'avais pas tant le goût de dire, j'arrive à d'autres choses que je n'aurais pas tant le goût que ça à dire. Quand on arrive aux applications. Bien sûr, l'idée de prêcher, d'enseigner la parole, c'est de faire comprendre, mais c'est aussi de voir qu'est-ce que c'est supposé changer, comment c'est supposé avoir une influence dans la vie, comment que le texte interpelle. Et je dis justement le texte interpelle parce que j'essaie de travailler fort de ne pas dire ce que je pense sur les textes, mais de faire sortir du texte ce qu'ils disent, eux. Moi, encore, j'aimerais bien laisser faire cette chose-là puis s'en aller sur une discussion sur ce qu'on sème, ce qu'on moissonne, et de voir pour chacun les différentes situations et comment qu'on pourra faire attention. Mais le contexte m'oblige. Donc, vous me pardonnerez. Suivez avec moi les arguments. Okay? On va retourner un peu dans le chapitre 6, puis on va voir qu'est-ce que ça dit. Je vais sauter quelques versets pour essayer d'arriver à l'essentiel de ce qui est dit. Okay? Donc, 6:2 dit, « Portez les fardeaux les uns les autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Chapitre 6, « Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens, celui qui l'enseigne. » Une façon de porter les fardeaux les uns des autres, c'est qu'on fasse part de nos biens à ceux qui nous enseignent. Il y aura une collecte tantôt. Là, je l'ai dit deux fois. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aurait semé, il le moissonnera aussi. Quand est-ce qu'il est semé? Ben, il est semé quand il a fait part d'une partie de ses biens à celui qui enseigne. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons quoi? La vie éternelle, autant que convenable, si nous ne relâchons pas de faire le bien, donc de partager avec ceux qui enseignent la parole. Ça a l'air qu'il y avait, dans la Galatie, des gens qui avaient quitté l'enseignement de l'apôtre Paul. Ça, c'est assez clair, partout dans Galate. On l'avait abandonné, on l'avait mis à part, puis on courait après d'autres enseignants, puis d'autres évangiles, puis toutes sortes de fausseté, de mensonge. Mais ça a l'air qu'en plus de tout le reste, ils refusaient d'appuyer, soutenir financièrement ceux qui les enseignaient, la parole. Et c'était un problème. Donc, Paul, il sentait le besoin de les encourager. Et la façon de s'aimer le bien, de faire le bien et de s'aimer pour l'esprit, qu'on voit ici dans ce texte-là, c'est de bien supporter ceux qui enseignent dans nos églises. Premièrement, financièrement, mais ensuite en tout, c'est de faire part avec le ministère à eux. Et c'est l'application principale que Paul, dans le texte, il s'en va là. Pourquoi payer des enseignants? Bien, je vais vous raconter mon histoire de ce message ici. Il y a quelque temps, Trevor m'a demandé, on a parlé ensemble, puis j'ai dit, je vais recommencer à faire des enseignements à l'église. Et on m'a donné un texte, puis plus tard, il a fallu qu'on échange pour faire à d'autres. Là, je lis le texte, je dis, OK, je le lis, je le regarde, je dis, c'est bien. On parle de semer, de moissonner. C'est assez facile à comprendre. Il reste des détails autour que je ne vois pas comment que le lien rentre, mais je vais être capable de régler ça au fur et à mesure de mes mijotages puis mes différentes pensées, pendant que j'avance. Je vais rassembler tout ça ensemble, puis je vais faire un beau message sur « on sème puis on récolte, puis fais attention à ce que tu sèmes parce que tu ne veux pas récolter n'importe quoi. » Donc, je médite, je prie, je mijote, je réfléchis, j'écris des choses. Et cette semaine, j'écoute sur desiringgod.com le message de Piper, dans John Piper que j'ai cité tantôt, qui parle de ce texte-là. Puis il m'a fait comprendre quelque chose. C'était que les petits liens qui me restaient à faire, puis les petits détails qui me restaient à régler, bien, c'était là le sens principal du texte. Si on ne comprend pas le verset 6, et on ne le met pas dans son contexte, puis on ne comprend pas où tout le monde va, bien, on manque le but de ce que Paul voulait dire. Je l'avais manqué. Faute d'études. Faute de manque d'études, en fait, je devrais dire. Si on veut rester en surface, c'est facile. Et ça arrive. Moi, j'ai participé à des cellules de prière depuis des années. Il n'y a personne qui travaille pour 40 heures là, pour une discussion d'une demi-heure. Si on ouvre la parole, on regarde, puis on discute ensemble de qu'est-ce qu'on voit là-dedans. Mais pour aller en profondeur, pour aller au fond d'un texte biblique, bien, ça prend du temps. Ça prend du temps pour lire, pour relire, pour méditer, pour étudier, pour lire des commentaires, pour lire 15 versions de la Bible, pour parler avec d'autres, de discuter, travailler, retravailler, de faire un PowerPoint, un preview, je ne sais pas trop ce que tu veux utiliser, puis de voir, quand tu le regardes, dis non, je communique mal, puis de revenir, de penser aux applications, puis de rencontrer des gens, puis de rentrer, et ça prend du temps, ça prend du travail. Et moi, ben, je suis un chrétien qui a un culte à faire, qui a mon instruction, puis mes livres à lire, des choses pour moi d'apprendre et pour connaître Dieu, pour rester près de lui. Je suis un père qui doit m'occuper de mes enfants, leurs besoins physiques et spirituels. Je suis un enseignant qui doit s'occuper de ses élèves, même de leurs âmes, dans la mesure que je peux. J'anime des louanges. Je lis des sites, je travaille, je traduis des chants, je refais la musique. J'ai une cellule de prière à partir qui a commencé la semaine passée. J'ai un groupe de jeunes pour les 9-12 ans. Je m'en occupe. Est-ce que j'ai le temps d'étudier en profondeur ces choses-là? On te dirait, travaille plus fort, puis oui, tu pourrais. Peut-être. C'est ça que ça a de l'air qu'on disait dans le temps de Paul, quand Paul il a dit, non, moi j'ai choisi de ne pas recevoir un salaire parce que je suis célibataire, puis je suis capable de le faire, puis parce que je ne veux pas que personne... Mais il a dit, il y en a d'autres là, qui ont le droit. On a besoin de bonne nourriture. Pour avoir de la bonne nourriture, bien, il faut avoir des gens qui ont du temps pour le travailler. C'est à nous comme l'Église. On arrive à votre application. C'est à nous comme Église de construire notre budget. Est-ce qu'on soutient adéquatement ce qui enseigne? Est-ce qu'on ne distrait pas d'autres choses? Est-ce que nos priorités sont bonnes ou mauvaises? Moi, je ne dis pas. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Là. Ça va être à chacun de regarder, de penser, de parler avec les diacres et de voir. Est-ce que nous laissons à nos anciens le temps nécessaire de préparation ou est-ce qu'on met la pression pour qu'ils fassent d'autres choses? Est-ce qu'on a des hommes dans l'Assemblée qu'on libère et on est intentionnel, on fait exprès de dire, lui enseigne la parole, on va lui libérer de d'autres choses, on va s'assurer qu'il y a le temps. Est-ce qu'on fait des efforts pour trouver des jeunes hommes pour les former à enseigner, pour leur donner du temps, eux, à se préparer? Doug et Michel, ils arrivent à l'âge de la retraite, eux. Ils sont sûrement continués dans leur retraite, mais il va falloir avoir d'autres enseignants pour l'Église. Il va falloir. Est-ce qu'on travaille là-dessus? Est-ce qu'on est prêt à mettre de l'argent? Est-ce qu'on est prêt à s'aimer, nous, là, pour qu'on puisse récolter en enseignement? Personnellement, est-ce qu'on est prêt à construire notre budget pour soutenir ce qui enseigne? Ou est-ce qu'on est distrait par d'autres choses? J'ai parlé avec Jay Summers, je ne sais pas s'il se rappelle de lui, il était ici il y a plusieurs années, dans le temps que je suis arrivé, moi, en 96, je suis pas arrivé ici, là. Et lui m'a parlé, lui, c'était pas pour se vanter, c'était dans un contexte, là, OK? Il disait que lui, il soutient une organisation vision, mais le but, c'est parce que derrière ça, eux, ils soutiennent le réseau. Puis lui, il voyait le besoin personnellement, de prendre de son argent puis de le donner à ces ministères-là pour essayer d'envoyer des gens dans la moisson au Québec. Il m'appelait parce qu'il voulait parler avec Doug pour avoir des détails sur le réseau, sur les besoins au Québec, parce que lui, il veut convaincre son église qu'on doit investir au Québec dans les enseignants. Est-ce que nous, on est prêts? Lui qui est rendu en Alberta, il pense à nous. Je me demande des fois si nous, on pense à nous autant. Si je veux aller plus général encore, je vais laisser les anciens et l'Église, puis les salariés, mijoter ça. Mais quelle importance est-ce que nous, on donne dans nos vies, dans nos cœurs à l'enseignement? Est-ce que nous cherchons des enseignants et à t'enseigner? Le christianisme, c'est une religion de fait historique. Il y a des choses qui se sont passées. Il y a un livre qui dit quelque chose qui est vrai et qu'on suit. C'est pas de quoi, il y en a, je ne connais pas les autres, tel temps que ça, mais bouddhiste, des affaires de méditation où on s'en va faire ce qu'on veut un peu, puis on. Oh. C'est pas l'hindouisme avec des milliers, des millions de divinités qui disent chacun des différentes choses. Nous, c'est fondé dans les faits historiques. C'est fondé dans la réalité puis dans la pensée. Puis Dieu nous a parlé par sa parole. Est-ce que nous, on prend le temps de travailler ça? Je pense à toutes sortes de choses. Il y a des cours profacs qui ont commencé la semaine passée, me semble, mais qui se donnent régulièrement les mardis, les jeudis soirs. On pense-tu les prendre? C'est pas obligé d'être juste pour les ouvriers, ça. En fait, si c'est le mardi soir, c'est sûrement pour que ça soit disponible pour d'autres mondes. Est-ce qu'on s'instruit? Profac, ça fait pas l'affaire. Il y en a plein d'autres. Est-ce qu'on achète des livres? La librairie, je vois Eric en arrière qui travaille fort pour continuer l'œuvre de la librairie, de l'augmenter encore et encore. Camille et Suzanne qui ont passé des années à nous offrir des livres, on s'en sert-tu? Est-ce qu'on va sur des sites s'il le faut pour en acheter, pour trouver, pour lire? On s'instruit-tu? Est-ce qu'on se sert de notre Internet chez nous pour d'autres choses que des niaiseries sur YouTube? Oups! Je pense que j'ai touché une corde sensible à quelqu'un. ACCM.ca, le message, probablement pas le mien, là, je suis juste moi. Mais le message à Doug va être là ce matin, pour ceux qui le manquent. On prend-tu la peine de l'écouter? Sinon, on comprend l'anglais. Piper, MacArthur, Driscoll, Sproul, McDonald, toutes sortes de monde. C'est des tonnes. On peut les trouver sur YouTube, ces bonnes choses-là, ou sur le site web. Des fois, en transcription, si on aime mieux lire. Difficulté de comprendre l'anglais, à l'écouter, mais à lire un peu. Toutes sortes de choses. Est-ce qu'on prend le temps, nous, pour faire notre culte? Est-ce qu'on s'assoit pour lire la Bible, puis on passe vite, puis on finit, puis on passe à d'autres choses? On prend-il la peine de méditer, puis pour trouver le fond du passage? Ou on reste, on se satisfait à gratter à surface? Puis voir la première affaire qui saute aux yeux. Est-ce qu'on est prêt à faire le travail que ça prend et investir peut-être de l'argent dans des commentaires bibliques et dans des outils pour nous aider? Jusqu'à quel point qu'on est sérieux pour ça? Mais Paul, il l'était. Paul, il était sérieux pour l'enseignement. Quand il dit, ne nous lassons pas de faire le bien, mais d'appuyer tes enseignants, car tu moissonneras en vie éternelle, oui, mais on va moissonner aussi. Avec nos enseignants qui nous enseignent des messages de qualité. Donc, on arrive avec le choix. Je vais voir où est-ce que je suis rendu dans mes affaires. Voilà, j'ai... Ton sort final dépend finalement d'une certaine façon si tu fais part de tous tes biens à celui qui enseigne. C'est ça qui est dit dans le texte. On est allé voir plein de différentes applications qu'on pourra voir, mais à la base, Paul est dit, tu veux la vie éternelle? Sème pour l'esprit. Tu veux s'aimer pour l'esprit? Une des façons, c'est d'appuyer tes enseignants. les soutenir convenablement et montrer un intérêt dans sa parole. Nous ne lançons pas de faire le bien quand nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne relâchons pas. On finit avec l'exhortation, Galates 6, 10, qui dit, « Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pendant la saison, au printemps, quand cette tente s'amène, s'amène. Pendant cette vie, pendant qu'on peut, s'amène. Pendant qu'on a un travail et qu'on a de l'argent, s'amène. Pendant qu'on a l'énergie pour le faire, pendant qu'on est retraité puis on a du temps, c'est bon. Pendant que nous en avons l'occasion, pendant cette saison, pratiquons le bien. C'est bon pour l'esprit. Envers tous, et surtout envers les frères en la foi, avec un, et moi j'ajoute, avec un empressement, avec zèle. Et une petite promesse, 2 Corinthiens 9, 6, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne, comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, que Dieu aime celui qui donne avec joie. Prions. Merci Seigneur. Merci Seigneur que tu t'es révélé à nous à travers ta parole. Tu ne nous as pas laissés sans témoignage de ta personne et de ta gloire. Merci Seigneur de ce que tu nous as enseigné à travers ta parole. Comment avoir la vie éternelle. Merci Seigneur que ce n'était pas en faisant plein d'œuvres, ce n'était pas en essayant de contrôler un moi incontrôlable, c'est en laissant ton esprit agir en nous. Merci même que tu ne nous as pas donné de méthode pour qu'on aille à te chercher toi. Mais maintenant Seigneur, aide-nous à écouter nos cœurs, à écouter l'Esprit de Dieu qui parle à nos cœurs et qui dit que l'enseignement est important, que ta parole est importante. Donne-nous une passion pour ta parole. Une passion tellement forte, Seigneur, qu'on est prêt à investir du temps, de l'énergie, de l'argent pour l'apprendre et pour le connaître, sachant que c'est le seul moyen de te connaître, toi, le seul vrai Dieu, la seule source de salut, et de connaître ton Fils Jésus, de connaître la puissance de la croix. C'est seulement à travers ta parole. Sépare-nous, Seigneur, avec ta bénédiction, mais que ton esprit nous fasse mijoter toutes ces choses le restant de nos jours. Nous prions au nom de ton Fils Jésus. Amen. Bonne soirée.